les amis, et bienvenue sur mon podcast. Ici, vous allez découvrir de belles histoires de femmes entrepreneurs qui se sont lancées avec succès dans l'entrepreneuriat, souvent après une première vie en tant que salariée, maman à plein temps ou encore artiste, pour ne citer que quelques exemples. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous accompagner dans votre projet, car je suis convaincue que c'est dans l'échange et le partage que nous grandissons. Je m'appelle Anne Guillou, je suis consultante spécialisée dans l'amélioration de la performance des petites entreprises. Alors si vous avez déjà lancé votre entreprise et que vous souhaitez augmenter la satisfaction de vos clients, l'efficacité de votre équipe ou encore réduire vos coûts ou tout simplement faire le point, contactez-moi et nous ferons ensemble un premier bilan de votre activité, gratuitement bien sûr. Vous trouverez tous les liens de contact dans les notes de l'épisode. Et à présent, place à l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Catoul. Sarah a une formation initiale en marketing et elle a occupé, depuis le début de sa carrière, plusieurs postes en tant que salariée dans ce domaine. Et elle est aujourd'hui à la tête du marketing digital d'un grand groupe belge d'assurance. Pourtant, Sarah a toujours eu la fibre entrepreneuriale, sans doute inspirée par ses parents qui sont tous deux entrepreneurs. D'autre part, l'alimentation, le bien manger et la conscience de l'environnement sont des valeurs très très importantes pour elle et d'ailleurs aussi un héritage de ses parents puisqu'elle aidait petite à cultiver le potager familial qui était la principale source de leur alimentation. Et j'avoue que personnellement, ça me fait rêver. Alors, rien de surprenant quand Sarah a ouvert il y a 2 ans une petite épicerie bio, un projet qu'elle nourrissait en fait depuis de nombreuses années sans avoir jamais sauté le pas jusque-là. Et il faut dire qu'étant maman solo de 2 jeunes filles, avec un job dans lequel elle s'investit vraiment à fond, se lancer dans l'entrepreneuriat était bien sûr une décision délicate à prendre. Alors, quel a été le déclencheur? Comment a-t-elle monté son projet? D'où lui vient son inépuisable énergie? Ou encore, comment s'organise-t-elle au quotidien? Autant de questions passionnantes auxquelles Sarah a accepté de répondre avec beaucoup d'authenticité et de simplicité. J'espère vraiment que cette conversation vous inspirera autant qu'elle m'a inspirée et nous nous retrouvons tout de suite en compagnie de Sarah. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Anne.
Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Je vais commencer tout de suite par une courte introduction et ma première question. Alors, tu as une très belle carrière dans le monde de l'entreprise et puis tu fais plein de choses à côté, donc ton temps est déjà bien rempli. Et fin 2019, donc il y a presque 2 ans, tu te lances dans l'entrepreneuriat en ouvrant ta petite épicerie bio, dont tu nous diras un petit peu plus. Alors, j'ai coutume de dire que, bien sûr, chacune à notre échelle, nous avons tout un don unique à faire partager au monde. Alors, dis-moi, quel est donc le tien? Quelles sont les valeurs que tu portes?
Alors, je ne sais pas du tout quel est mon don, encore moins quel est mon don unique, parce que, tout simplement, je ne suis jamais satisfaite, donc me trouver un don, ça va être assez compliqué. Mais je pense que j'ai des valeurs qui sont importantes. J'aime les gens, je pense être quelqu'un d'authentique et mes valeurs sont avant tout dans le respect. Donc, c'est mon fil rouge, tout simplement. Voilà.
Et donc, c'est quelque part aussi traduit dans le concept de ton épicerie.
Oui, tout à fait. Mon épicerie est née de ce fil rouge, effectivement, le respect de soi, le respect des autres. C'est quelque chose de tellement fondamental pour moi que je l'ai prolongé dans mes activités.
Et donc, tu peux nous en dire un peu plus sur le concept, en fait, que tu as mis en place, que tu as lancé avec cette épicerie?
Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, j'ai toujours bien aimé manger des produits qui ont du goût, des produits qui ont de la valeur, pas de la valeur monétaire, mais de la valeur pour nous, pour notre corps. Mais je sais aussi que prendre le temps de faire à manger, de faire les courses comme il faut, de choisir les bons produits dans un réseau respectueux des producteurs et des artisans, qui sont mes valeurs finalement, ce n'est pas toujours facile. J'ai une vie très dense aussi, bien avant le lancement de l'épicerie déjà. Je sais ce que c'est de travailler beaucoup, de gérer de front une carrière, des enfants, une maison. Et bah, évidemment, la priorité n'est pas toujours dans la nourriture, on n'a pas toujours le temps. On prend souvent ce qu'on a sous la main.
Oui, et ouais. Je confirme.
Voilà. Beaucoup de gens, je pense, me peuvent malheureusement le confirmer et je l'entends tous les jours dans mon épicerie. Voilà. Et donc, quand on n'a pas le temps et qu'on a quand même une idée de comment on veut manger, moi, en tout cas, j'avais vraiment l'impression qu'on devait pouvoir faire confiance à quelqu'un et je voulais être cette personne de confiance en qui les gens pouvaient avoir confiance. Et donc, j'ai créé cette épicerie qui rassemble des produits naturels, sinon ils n'ont pas leur place chez moi, des produits bio, éco-responsables, artisanaux et si possible régionaux. Et donc, quand ils viennent chez moi, ben, les clients savent qu'ils peuvent acheter des produits les yeux fermés, tout simplement, s'ils ont ces valeurs-là.
Magnifique. Et est-ce que tu avais ce projet en tête depuis longtemps ?
Alors, ça fait 15 ans que je veux aller dans cette direction. Il y a 15 ans, je n'avais pas vraiment cette idée-là en tête. Elle partait peut-être dans une autre direction, mais les valeurs étaient les mêmes, les objectifs étaient exactement les mêmes. Et bah, c'est long d'y penser sans agir, 15 ans, mais voilà, je l'ai fait. Donc,
Oui, en effet. Et quand tu parles en fait de ces valeurs, le bien manger, les produits qui ont du goût, est-ce que c'est quelque chose que tu as connu, que tu as vécu quand tu étais petite?
Ben, en fait, j'ai été élevée dans ces valeurs-là, effectivement. Mes parents ont toujours eu leur potager, ont toujours fait attention à manger correctement. Ben, c'est des choses qu'on produisait nous-mêmes. Voilà, on avait notre potager, on avait beaucoup d'animaux à la maison, etc. Donc, j'ai toujours été élevée dans ces valeurs-là, dans le respect de la nature, dans le respect des choses qu'on a autour de nous, en fait, tout simplement. Donc, oui, ce sont des valeurs qui m'ont été transmises, clairement, toute petite.
Oui, et tu m'as dit, il me semble, quand on a préparé cette interview, que tes parents sont d'ailleurs aussi entrepreneurs.
Oui, tout à fait. Donc, non seulement ils m'ont transmis la valeur de la nature et de tout ce qui nous entoure, mais ils nous ont aussi transmis cette valeur de l'entrepreneuriat dans laquelle j'ai vraiment adhéré parce que dès mes 14 ans, en fait, quand ils ont ouvert leur entreprise à eux, j'ai foncé dedans à pieds joints avec eux et j'ai adoré ça. Et j'étais vraiment bien là-dedans et très vite, j'ai combiné études et la présence dans leur entreprise à eux. Puis j'ai combiné mon job avec le leur pour être présente tout le temps jusqu'à ce que je quitte le nid familial, je vais dire. Mais oui, c'était déjà très, très important pour moi à l'époque, effectivement. Donc, ces valeurs-là m'ont suivi. Oui.
Et donc, tu dis, voilà, ça fait 15 ans que tu as ce projet en tête. Donc, oui, 15 ans, effectivement, c'est long. J'imagine qu'à un moment, il y a eu un déclencheur et aussi que si tu t'es pas lancé depuis 15 ans, c'est qu'il y a eu aussi un frein. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus, en fait, quel a été ce frein, éventuellement, bien sûr, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu t'es lancée?
Ah oui, il y a eu frein et déclencheur, effectivement, 15 ans, comme je l'ai dit, c'est long. Mais le frein, c'est tout simplement la peur de se lancer. C'est pas beaucoup plus que ça. C'est de pas trouver la solution, c'est de ne pas être aidé aussi à la trouver, je crois. C'est aussi l'entourage parfois qui comprend pas l'importance du projet, qui pourrait le minimiser ou quoi. Enfin, c'est plein d'éléments ou des freins qu'on se donne à soi-même, des peurs qu'on n'arrive pas à vaincre. Et je pense que j'avais juste besoin du bon moment. Et le déclencheur dans mon cas, ça a été de me retrouver seule avec mes enfants. Et cette idée qui restait présente depuis 15 ans, cette envie d'entrepreneuriat, parce que effectivement, comme on l'a dit, je vis ça depuis mes 14 ans, donc depuis ça fait quelques années. Et c'est quelque chose qui est toujours resté, ce goût de l'entrepreneuriat, ces valeurs-là, et ce projet de vouloir faire autre chose. Mais je savais que je voulais le faire, mais sans trop savoir comment et quoi en faire, en fait. C'était des valeurs qui devenaient de plus en plus claires aussi au cours de ces 15 années et de plus en plus importantes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire parce que On peut avoir des projets, on peut avoir des envies, mais il faut vraiment, moi dans ma tête en tout cas, il fallait que les choses se clarifient et qu'elles prennent de plus en plus de place. Et il a fallu ce temps-là probablement. Et c'est des valeurs aussi qui devenaient vraiment importantes à être transmises. C'est aussi un des déclencheurs. Et donc un jour, je me suis dit qu'il était temps, tout simplement, et que j'étais seule maître de mes projets. Ça, c'est très important. C'était à moi de construire seule mon projet et de mettre ma pierre à l'édifice, en fait.
Et quand tu dis transmettre, donc des valeurs importantes à transmettre, tu fais allusion, alors on n'a pas encore abordé ta vie personnelle, mais est-ce que tu fais allusion à tes filles ?
Entre autres, mais...
Oui.
Oui, il y a mes enfants, effectivement, on en parlera peut-être un peu plus tard, parce qu'effectivement, elles ont une place très, très importante dans tout ce qui s'est construit et comment ça s'est construit. Mais je parlais ici plutôt des valeurs qui sont importantes pour moi, justement, les valeurs au niveau de la responsabilité qu'on a, au niveau de notre santé, de comment on mange, de comment on vit avec la nature, etc. C'était des valeurs qui devenaient tellement importantes pour moi que c'était les transmettre autour de moi. Et cette épicerie est une façon de le faire. C'est la façon que j'ai choisie pour le faire, parce que justement, j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses, etc., comme je l'ai déjà longuement dit. Mais voilà, c'est la façon que j'ai choisi de le faire. Mais derrière, il y a toutes des valeurs qui sont importantes pour moi et que je veux vraiment diffuser.
En abordant un autre aspect, quand on se lance, comme tu l'as fait, on cherche souvent des conseils. C'est important d'être entouré par des personnes de confiance, parce que quelque part, ça aide beaucoup à garder sa motivation, à tenir le coup, à rester, à croire en son projet et aller jusqu'au bout. Or, en fait, ce projet, tu m'as dit que tu l'avais préparé finalement seul ou presque.
Oui.
Et en fait, est-ce que tu pourrais expliquer ce choix pas été un choix d'ailleurs, mais comment ça s'est passé en fait à ce niveau-là pour toi.
C'est vrai que c'est assez contradictoire et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, il faut être bien entouré pour le faire et en même temps, c'est vrai, j'ai créé ce projet quasiment seul. En fait, et ça vient probablement de mon passé, des 15 ans que j'ai passé à chercher ma voie. En fait, je voulais plus avoir de freins, je voulais pas recevoir de critiques négatives, démotivantes. Je voulais vraiment le réaliser, le projet. Il était vraiment temps pour moi de le lancer. Je sentais que ça venait de mes tripes, quoi. Il fallait vraiment que je le fasse. Et donc, je voulais pas m'entourer de critiques, tout simplement. Je compare toujours le lancement de mon projet au choix du prénom de mes enfants, en fait, que j'ai jamais voulu dévoiler à la naissance. Avant la naissance. C'est une drôle de comparaison, mais c'est la plus évidente qui m'est venue à l'esprit. Oui, avant la naissance, en fait, chacun se permet de donner un avis sur un prénom. J'aime bien, j'aime pas, c'est trop vieux, c'est trop par-ci, par-là, enfin bon, peu importe. Et quand on donne un prénom après la naissance, c'est un fait. C'est le prénom de l'enfant, c'est ainsi, et les gens vont moins, l'entourage va moins se permettre de donner son avis. Et en tout cas, ouvertement. Et en fait, c'était vraiment mon sentiment. Mais une fois que mon projet sera là, les gens vont devoir l'accepter parce que c'est mon choix. Et c'est peut-être pas la bonne façon de faire, j'en sais rien. En tout cas, c'était la mienne. Et il y a en fait une seule personne de confiance qui était au courant dès le tout début du projet. Puis plusieurs personnes après ont été mises au courant. J'en ai parlé un peu plus à l'approche du lancement parce qu'il fallait vraiment aussi que je partage des idées et que j'ai d'autres avis et que ce soit constructif. C'était aussi une force d'avoir ces personnes autour de moi, en fait. Mais je pense qu'il faut vraiment bien les choisir et savoir ce sur quoi on a besoin d'un échange et ce sur quoi on n'a pas besoin d'en avoir, parce que ça, c'est nos convictions personnelles. Et parfois, il faut aussi avoir cette force de les garder.
Oui. Donc, bien s'entourer.
Oui, bien s'entourer. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Très important.
Alors, je vais passer une question plus pratique, en fait, parce que bon, tu as ton job, hein, le job de salarié que tu as conservé en parallèle à ta mission ou ton activité d'entrepreneur.
Tout à fait.
Et je peux facilement m'imaginer que combiner tout ça et en toujours garder ce souci de donner le meilleur de toi-même, eh bien, ça doit demander une organisation bien huilée. Mmh. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous décrire en quelques mots comment tu t'organises? Alors, tu prends une journée, une semaine, voilà, à toi de voir.
Ça, un type, ça va être très difficile à expliquer. Mais je vais plutôt parler de la façon avec laquelle je m'organise, parce que je pense que c'est... C'est ça la clé, enfin pour moi en tout cas, c'est ça la clé. En fait, j'ai tout organisé autour de mes obligations d'abord. Mon job principal, les activités des enfants, les délais pour les commandes pour mon épicerie, ce sont des choses qui sont assez fixes et que je ne peux pas bouger dans le temps. Et donc, à partir de là, il me reste du temps à organiser. Et je fais en fonction des heures, les heures d'ouverture de l'épicerie, les moments où je prépare les commandes, les moments où je les amène à la poste pour les envoyer, des choses comme ça, sont toutes gérées en fonction du temps qui me reste après avoir utilisé le temps pour mon job, les activités et les délais des commandes, etc. Toutes les choses impératives à faire à temps et à heure. Et autre chose, c'est que c'est, en fait, pour moi, c'est très important de bien séparer les moments. Mes deux jobs ne peuvent vraiment pas entrer en concurrence dans ma tête. Donc, je sépare bien mes activités. Lorsque je travaille pour mon employeur, je ne peux pas penser à l'épicerie. Et lorsque je suis à l'épicerie, je dois vraiment me concentrer sur l'épicerie aussi. Donc, c'est fondamental, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut vraiment pouvoir se dire, ce temps-là est consacré à telle tâche, cet autre temps-là est consacré à une autre tâche, et bien scinder les idées, les moments, etc. Alors oui, je travaille 7 jours sur 7, je travaille au minimum 15 heures sur 24, je ne sais pas, je ne compte pas en fait, et heureusement que je ne compte pas, je crois. Mais honnêtement, oui, ça demande une organisation bien huilée, mais je ne regrette rien, parce que c'est passionnant.
Et on y a fait allusion rapidement, mais donc tu as deux filles, une adolescente, je pense, et une un petit peu plus petite,
ouais, c'est
et elles t'aident donc beaucoup au quotidien. Et j'imagine aussi que tout ça les inspire. Donc, qu'est-ce qu'elles pensent du projet de leur maman, penses-tu?
Ah oui, alors je ne peux que penser ce qu'elles pensent.
Ah oui.
Alors d'abord, je dois dire qu'elles sont absolument admirables. Je suis très fière de mes enfants. Elles ont effectivement 10 et 16 ans, donc c'est des âges... voilà, et ça aussi, je dois l'avouer, ça a aussi facilité la décision de lancer mon projet à 10 et 16 ans. Donc elles avaient à l'époque 8 et 14 ans. C'est plus facile de le lancer que quand on a des petits bouts de 4 et 6 ans. Donc voilà, ça a aussi... L'âge de mes enfants a aussi fait que c'était plus le bon moment qu'il y a quelques années. Je dois aussi le dire. Pour revenir à l'impression qu'elles peuvent avoir, je pense, j'ose penser qu'elles sont fières de leur maman, mais en tout cas, quand je les vois, je pense qu'elles le sont. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'elles savent qu'entreprendre, avoir son projet, être indépendante, est vraiment une liberté fondamentale et qu'elles peuvent vraiment s'enrichir de ça. Elles me reprochent aussi mon manque de disponibilité, hein, ça c'est clair. Mais je pense que si on devait choisir le avant épicerie et après épicerie, elle choisirait sans problème le après épicerie. Ça, j'en suis presque sûre.
Aurais-tu une petite anecdote à nous raconter de tes filles qui gèrent les magasins toutes
seules? Ah, ça, j'en ai plein. Et parce que parfois, quand je dois travailler, elles gèrent le magasin. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai un client qui est venu. Bon, d'abord... Enfin, il y en a plein d'anecdotes, c'est trop mignon, surtout avec la petite de 10 ans, parce que celle de 16 ans, elle gère, hein, ça, il n'y a pas de problème, elle gère, c'est carré, c'est à son image. Et la petite qui n'a que 10 ans, parfois, elle est un peu perdue. Et c'est magnifique parce qu'une fois, je devais, comme je dois gérer aussi les activités, parfois, je laisse une des deux au magasin pendant que je vais conduire l'autre à son activité. Et je revenais d'avoir conduit la grande à son activité. La petite était restée au magasin. Et puis, je vois un client qui sort. Et puis, j'arrive, je dis, ça va, ça s'est bien passé. Ah, mais non, je ne savais pas ce que je devais faire. Je ne savais pas ce que je devais lui servir. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Mais il m'a dit qu'il reviendrait. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et puis, le lendemain, effectivement, le client est revenu, ou quelques jours après, je ne sais pas. Et il m'a dit, votre fille est magnifique. Je dis, oh. je ne m'attendais pas à avoir un petit bout de 10 ans en face de moi en ouvrant la porte de votre magasin, mais c'est exceptionnel parce qu'elle a répondu à mes questions même si elle ne savait pas, et j'ai promis que je reviendrai, je suis là et vous lui direz qu'elle est magnifique. Et voilà, ça c'est pour le cœur d'une maman, c'est juste incroyable d'entendre ça, et depuis c'est un très bon client régulier.
Oui,
et voilà, et Rosalie adore le servir maintenant, et puis voilà, c'est très bien.
C'est une belle anecdote. Alors, une autre question, en fait, il y a beaucoup de femmes comme toi qui sont salariées, qui ont un projet, mais qui quand même, soit par goût, soit parce qu'il y a le côté financier à assurer, souhaitent garder leur job de salariée tout en, voilà, éventuellement lancer sur leur projet. Et donc, elles hésitent à franchir le pas, hein, parce que c'est quand même pas facile. C'est gratifiant, mais c'est difficile, donc par peur de ne pas s'en sortir. Et donc, toi étant dans la même situation, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner?
Ah, il y a beaucoup de conseils, je pense. Mais je pense que d'abord, c'est de bien penser son projet. Vraiment, penser le projet, écrire un business plan, détailler la mission, la vision qu'on a, réfléchir à tout, ou presque, parce qu'on ne peut pas penser à tout, et heureusement qu'on ne peut pas penser à tout. Il faut se lancer lorsqu'on sent que le projet est suffisamment mûr et a de la valeur, en fait, pour soi. Il faut trouver une solution au point négatif, au risque qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas prendre. Pour moi, il faut vraiment établir une liste, trouver une alternative positive à chaque point qui semble être un risque, et il faut vraiment toujours faire cette liste. Il faut organiser le projet en fonction de ses impératifs. Il faut être conscient des limites qu'on se fixe, et puis on les dépassera après. En temps voulu, on se dira qu'il est temps de dépasser ces limites qu'on s'était fixées, et il faut vraiment le faire, on n'est pas entrepreneur pour rien. Mais il faut aussi savoir qu'on ne contrôle pas tout, mais tant pis, parce que ça vaut le coup d'entreprendre, vraiment. Et donc, je reviens sur un point qu'on a noté tout à l'heure. Il faut s'entourer des bonnes personnes et surtout des personnes compétentes. Et si on ne se sent pas apte à réaliser un de ces points, écrire un business plan, écrire une mission, lister les points sur lesquels on pense prendre des risques, eh bien, on se fait aider. Parce que c'est important, je pense, avant de démarrer, d'avoir une vision claire d'où on va, même si c'est une première étape et qu'il y en aura d'autres après. Je pense que c'est vraiment important d'avoir les idées claires pour être serein en démarrant l'activité et se dire qu'on est conscient de ce qu'on fait, tout simplement.
Merci pour ces conseils. On l'a déjà évoqué, ça a été un parcours quand même probablement assez difficile, surtout que tu l'as fait majoritairement seule. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment où tu te dis, ça a été vraiment dur dans cette aventure, et comment tu as surmonté ce moment, cette difficulté?
Alors moi, je dirais que ce sont des doutes au quotidien. Je n'ai pas vraiment une expérience à raconter comme ça spécifiquement. Ce sont des doutes au quotidien, surtout quand on n'a pas vraiment de personne à ses côtés pour discuter des problèmes à résoudre, des étapes à franchir, pour nous aider dans l'organisation du quotidien. Même si, je le rappelle, mes enfants m'aident énormément, et sans elles, honnêtement, je ne suis pas sûre que j'y arriverais. Donc, je n'ai pas d'exemple précis. Mais je suis aussi quelqu'un d'assez créatif et très cartésien en même temps. Donc, je me pose beaucoup avant de prendre des décisions difficiles, en fait, et ça m'aide énormément. Et finalement, je me rends compte qu'en réfléchissant à ça, je me rends compte que les moments les plus difficiles sont plutôt liés à l'environnement dans lequel on vit, l'industrie alimentaire qu'on nous impose, un environnement que j'essaie de combattre par mon engagement. Et c'est plutôt ça mon problème plutôt que les doutes du quotidien, même si ils sont présents et je dois faire avec et je dois les solutionner au jour le jour. Mais c'est mes valeurs qui sont plus touchées, je vais dire.
Et si on prend le côté inverse, alors est-ce qu'il y a des moments qui ont été vraiment particulièrement heureux, exaltants, où tu te dis toutes les planètes sont alignées, c'est génial, rien ne peut m'arrêter?
Ah oui, heureusement, et elles contrebalancent tout, les moments difficiles, tous, à une vitesse incroyable. Heureusement, les moments de bonheur, il y en a tellement, et vraiment. C'est très difficile aussi de les citer. Je parle de mes enfants, mais voilà, vous sentez que j'aime énormément mes enfants. Et elles sont très importantes dans ma vie. Mais voilà, quand je les vois gérer le magasin, quand je les entends parler des produits aux clients aussi, ça veut dire qu'elles ont intégré complètement les valeurs. Quand je lis des avis positifs sur l'épicerie, sur Google, ou peu importe, que je vois un client qui me fait confiance, qui a un nouveau partenariat qui se crée. À chaque commande que je reçois, que je dois envoyer, que je dois préparer, quand je dois réaménager les pistes, peu importe, en fait c'est tout le projet entier qui me donne tellement de bonheur. Il faut pas grand chose en fait pour contrebalancer ces petits doutes là ce qui fait que je continue et que je continuerai. En fait, je me sens vraiment entrepreneur maintenant, et c'est vraiment enivrant.
Et voilà, quand tu as des moments de doute, tu dis oui, il y a des moments qui sont difficiles au quotidien, en fait. Comment tu fais? Enfin, tu te dis oui, je me pose pour prendre des décisions avant de prendre des décisions difficiles. Et ouais. Voilà, est-ce que t'as quelque chose à quoi tu as recours pour te ressourcer, trouver de l'inspiration?
En fait, quand j'ai un moment compliqué, quand j'ai un moment, c'est comme dans mon job principal, je me pose, je me vide complètement la tête et je pose le problème, je le mets sur papier, je le structure dans ma tête, je structure mes pensées et je place toujours une solution à côté du problème. C'est vraiment ma façon de faire à moi. Alors, d'autres auront d'autres façons. Moi, c'est ma façon de faire. Je dois vraiment, voilà ce qui se passe, voilà comment je peux le résoudre. Je choisis une option. Parfois, ça marche. Parfois, c'est un coup dans l'eau. Hein, ça arrive aussi. Mais, et puis surtout, si c'est un élément contre lequel je ne peux pas agir, je l'accepte et je m'adapte. Mais j'essaie d'être très pragmatique. Ça, c'est mon côté cartésien qui reprend le dessus.
Et aussi créatif, hein, pour toi.
Et créatif. Voilà, il faut trouver les solutions à côté, effectivement, les deux.
Et est-ce qu'il y a déjà, donc après 2 ans d'activité, est-ce qu'il y a déjà des enseignements que tu peux tirer de cette expérience?
Ah oui, plein. Être entrepreneur, en fait, pour moi, c'est être créatif, c'est oser, parfois avec mesure, c'est tout le temps sortir de sa zone de confort, tout le temps. C'est créer des liens aussi, rencontrer d'autres entrepreneurs. Je trouve ça fondamental, il faut vraiment le faire. C'est un milieu à part, et je pense surtout pour une femme entrepreneur, c'est d'autant plus important de s'entourer et de créer des liens. Ça, c'est un grand apprentissage pour moi, vraiment.
Et voilà, aujourd'hui, donc après 2 ans, comment tu envisages l'avenir? Quel projet tu as pour ton entreprise aujourd'hui?
Alors l'avenir, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas vraiment d'objectif. Je choisis en général un chemin, quand il se présente à moi. Ce que je sais, c'est que je n'ai vraiment pas envie que le financier dépasse mes valeurs. Je suis entrepreneur, mais je ne veux pas l'être à n'importe quel prix.
Ok, mais écoute, voilà, je pense qu'on a déjà parcouru pas mal d'aspects intéressants, inspirants, et donc je propose qu'on conclue là. J'aimerais savoir si tu souhaites ajouter quelque chose.
J'espère que j'ai passé des messages et que j'espère surtout qu'ils inspireront d'autres personnes, en tout cas vraiment, je le souhaite. Mais je vais juste ajouter une chose, c'est que je regrette vraiment rien. Je ne regrette rien, et si demain je dois arrêter ce que j'ai entrepris là, peu importe la raison, je serai vraiment heureuse de l'avoir fait. Je l'ai fait en ne prenant pas de risques financiers, donc je ne me retrouverai pas à la rue si ça s'arrête demain. Et ça, pour moi, c'était une des limites que je m'étais fixée. Mais demain, je sais que si ça s'arrête, j'arrêterai pas là. J'ai une telle force maintenant avec tout ce que j'ai fait en 2 ans, j'ai la force d'aller plus loin, une force que je pense que je n'aurais jamais eue avant. Donc, je la souhaite à tous ceux qui veulent vraiment entreprendre et qui veulent se lancer là-dedans. C'est, ouais, vraiment, je ne regrette pas et il faut le faire.
Une aventure difficile, mais vraiment exaltante.
Ah oui, complètement, complètement. Super. Et c'est parce que c'est difficile aussi que ça l'est.
Oui, oui. Merci Sarah.
Merci Anne.
Et dis-moi, où est-ce qu'on peut aller visiter ton épicerie ?
Alors, mon épicerie est située à Jeanblou. C'est une toute petite épicerie. Je crois que je suis devenue maintenant la plus petite épicerie de Belgique. je ne l'étais pas il y a quelques mois. Maintenant, il y a quelques semaines encore. Et maintenant, je pense que je le suis. Mais il y a plein de choses dedans. Donc, soit vous me retrouvez à mon épicerie à Jeanblou ou sur mon site web, puisque c'est une épicerie sur place. Mais c'est surtout aussi une épicerie en ligne. Donc, on peut commander. Je livre en Belgique, partout en Belgique et dans les pays limitrophes. Et vous me retrouvez sur mon site épiceriebiodesarah.be. Voilà.
Super. Écoute, merci beaucoup pour cette conversation. J'espère qu'elle inspirera beaucoup de femmes entrepreneurs. Bien au revoir et puis à bientôt.
À très bientôt, Anne. Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast, c'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.